Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
Un petit coup d'œil sur la rentrée littéraire après le journal de 19h. 19h15, Simon Liberati pour la publication de son dernier roman Performance chez Grasset. Et puis à 19h30, les débats de Panorama. Et on reçoit justement le réalisateur du Sixième Enfant qui met en orbite l'épineux problème de l'adoption en France. Tout cela après votre journal. Bonsoir Guillaume Dominguez.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Il est 19h.
Le gouvernement va allonger les études des futurs médecins généralistes d'un an, une quatrième année d'internat qu'ils devront faire dans des zones rurales les plus touchées par le manque de médecins. Une mesure loin de faire l'unanimité chez les étudiants, vous l'entendrez.
Vladimir Poutine durcit les sanctions contre les déserteurs. Le chef du Kremlin tente de limiter l'exode de nombreux Russes depuis l'annonce de la mobilisation partielle. On fait le point dans ce journal.
En Iran, la révolte des femmes se poursuit après la mort d'une jeune kurde arrêtée par la police des mœurs du pays. À Paris, devant la fontaine des innocents, environ 250 personnes manifestent leur soutien à ce mouvement de protestation. Nous retrouverons sur place notre reporter Chloé Lagadou dans une minute.
Le foot avec une nouvelle polémique autour de la question des droits de l'homme à l'approche de la Coupe du Monde au Qatar. Nous entendrons la réaction de Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, sur cette question. La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, le soleil revient sur tout le pourtour méditerranéen, un petit peu moins sur les Alpes-Maritimes, toujours un petit peu orageuse. Partout ailleurs, il fait gris et pluvieux.
Météo complète en fin de journal. Pour tenter de trouver une solution aux déserts médicaux, le gouvernement annonce donc vouloir prolonger d'un an l'internat des étudiants en médecine générale.
Les étudiants volontaires seront envoyés dans les zones rurales les plus touchées par la pénurie de médecins, où ils seront logés gratuitement. C'est du moins ce qu'affirme le ministre de la Santé, François Braun, qui veut aller vite. La mesure sera proposée lundi en Conseil des ministres et doit être inscrite au projet de loi sur le financement de la sécurité sociale. Certains syndicats d'étudiants en médecine dénonce une injustice, Louise Douillet.
Oui, car avec cette mesure, le gouvernement espère effectivement pousser les internes à s'installer en libéral, de préférence dans les déserts médicaux. Sauf que pour le docteur Élise Frey, présidente du syndicat de jeunes médecins Réagir, ce n'est pas la bonne méthode.
Si les lignes rouges ne sont pas garanties, c'est-à-dire qu'en fait, l'interne est seul dans un territoire qui est plutôt mal doté en médecins, qu'on lui promet peut-être une supervision par un maître de stage, mais qui n'a peut-être d'ailleurs lui-même pas d'expérience ou qui est débordé, vous pouvez mettre toutes les aides incitatives, l'interne n'aura pas envie d'y aller.
Il y a plus urgent donc, selon elle, alors même que certains internes se retrouvent en difficulté dès lors qu'il s'agit de simplement trouver un médecin pour encadrer leur stage.
Avant de penser à une quatrième année, il faudrait déjà consolider les trois premières. Garantir aux gens de pouvoir faire beaucoup de stages en milieu ambulatoire, donc non hospitalier, pour qu'ils soient familiers avec ça. Mais augmenter aussi les formations à la gestion d'un cabinet.
Car derrière la consultation, oui, le médecin doit effectivement gérer l'administratif. Et à ce sujet, le docteur Élise Frey réclame la création de guichets uniques à l'échelle des départements.
Voilà les explications de Louise Douillet. Merci Louise. Le président Emmanuel Macron réunira le 14 octobre prochain à l'Élysée l'ensemble des acteurs de la sécurité civile pour réfléchir à un nouveau modèle de prévention de lutte contre les incendies. C'est l'annonce faite par Gérald Darmanin cet après-midi depuis les allées du 128e congrès des sapeurs-pompiers de France qui se tient jusqu'à ce soir au parc des expositions de Nancy. Un congrès marqué cette année par l'été destructeur que nous avons vécu avec plus de 63 000 hectares de forêt qui sont partis en fumée ces derniers mois. Dans ce contexte, cette réunion annoncée par le chef de l'État est plus qu'attendue par les soldats du feu. Le reportage de Mélina Fachin.
Dans les allées du Congrès, les incendies hors normes de cet été sont encore dans tous les esprits. David Brunner, président des pompiers de Gironde, a lutté des semaines avec ses hommes contre les flammes.
On a pu encore répondre présent avec ces personnels qui aujourd'hui sont fatigués, épuisés, fiers de ce qu'ils ont fait aussi, mais ça a été une saison rude.
Et qui a révélé un manque d'effectifs sur le terrain, Éric Florès, vice-président de la Fédération Nationale.
On a perdu 30 000 sapeurs-pompiers volontaires en une vingtaine d'années, plus de 1300 casernes. On a détricoté l'organisation des sapeurs-pompiers, un peu comme on a détricoté l'organisation hospitalière française. Donc il faut regagner ce maillage territorial.
Il faut aussi, dit-il, mettre plus en valeur le travail des sapeurs-pompiers volontaires.
Le taux de l'indemnité des sapeurs-pompiers volontaires volontaire varie entre 7,5 et 10,5 € de l'heure. Lorsque je prends une babysitter, je la paye plus que les 10 € de l'heure. Et puis nous, ce qu'on attend du gouvernement, c'est aussi de l'aide aux employeurs qui recrutent des pompiers volontaires avec de la défiscalisation et faire savoir aux employeurs que c'est un atout d'avoir un pompier volontaire et pas une contrainte.
Il manque aujourd'hui 50 000 volontaires en France, d'autant plus essentiel qu'avec le dérèglement climatique, cet été dévastateur ne sera sans doute pas le dernier. Nancy, Mélina Fachin, Europe 1.
Quelles alternatives au gaz russe ? Eh bien, le Qatar annonce un nouvel investissement de Total Energy pour le développement du plus grand champ de gaz au monde.
Oui, 1,5 milliard d'euros qui viennent s'ajouter à un premier investissement de 2 milliards en juin dernier. De quoi réduire la dépense européenne au gaz russe, comme l'explique Patrice Géoffron, professeur à Paris Dauphine, spécialiste de la géopolitique de l'énergie.
Cet investissement de Total, évidemment, il est important pour remplacer en France une partie du gaz russe qui va manquer, mais il est important surtout au niveau européen pour l'organisation, je ne sais pas comment la qualifier, cette espèce de plan Marshall gazier, de telle manière à remplacer partiellement, certes, une partie de ce gaz russe, et il était sans doute assez logique de se tourner vers le Qatar. On est à ce moment-là plutôt dans le moyen terme que dans le très court terme. C'est-à-dire que concrètement, cet investissement, d'une part, va pas totalement bouleverser la donne dans cette décennie pour ce qui est des approvisionnements européens. Et puis, par ailleurs, elle n'apporte pas de solution à très court terme par rapport à notre premier défi qui est de passer l'hiver.
Patrice Géoffron au micro de Wilfried De Villers pour Europe 1.
Vladimir Poutine réagit face à l'exode causé par l'annonce de la mobilisation partielle dans le pays.
Et le chef du Kremlin veut envoyer 300 000 hommes supplémentaires sur le front ukrainien, mais depuis l'annonce mercredi, de nombreux Russes quittent le pays de peur d'être engagés de force dans l'armée. Vladimir Poutine fait tout pour engager davantage de soldats russes en Ukraine, notamment en durcissant le ton face à ceux qui voudraient déserter, Nina Droff.
Oui, tout à fait. Le président vient de signer aujourd'hui des amendements qui alourdissent les peines en cas de reddition ou de refus de combattre. Les militaires qui désertent, qui se rendent sans autorisation ou qui désobéissent aux ordres en période de mobilisation pourront désormais encourir jusqu'à 10 ans de prison. La loi entend aussi faciliter l'accès à la nationalité russe pour les étrangers qui rejoignent l'armée pendant au moins un an. Un message envoyé principalement aux immigrés venus des ex-républiques soviétiques d'Asie centrale. L'objectif est clair, recruter un maximum de soldats pour aller combattre en Ukraine. La mobilisation annoncée mercredi ne concerne pour le moment qu'environ 300 000 personnes, mais elle inquiète énormément chez tous les hommes russes. Depuis cette annonce, plusieurs centaines d'entre eux cherchent à fuir le pays, inquiets d'être appelés au front. Des ruées sur les billets d'avion ont été observées et les autorités russes ont elles-mêmes reconnu ce soir un afflux important de véhicules aux frontières du pays. Plus de 2300 véhicules privés se massent actuellement au poste frontière entre la Russie et la Géorgie. Et les frontières avec le Kazakhstan et la Mongolie sont également concernées par cette affluence.
Un point sur la situation en Russie par Nina Droff. Merci Nina. La Russie qui a ouvert hier les référendums d'annexion dans les zones contrôlées par l'Ukraine, des scrutins qualifié de pseudo-référendum par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, alors que les membres du G7 ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats.
La situation en Iran à présent, au moins 35 personnes tuées au cours de dernières violentes manifestations.
Et oui, depuis plusieurs jours dans le pays, les protestations se multiplient après la mort de Jina Mahsa Amini, cette jeune femme de 22 ans détenue par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés. À Paris, une manifestation en soutien aux femmes iraniennes se tient cette après-midi devant la Fontaine des Innocents, place du Châtelet à Paris. Une manifestation où vous vous trouvez, Chloé Lagadou.
Oui, beaucoup de drapeaux et de pancartes où il est écrit notamment « Femme, vie, liberté ». Et sur un grand drap blanc accroché entre deux poteaux électriques, les organisateurs ont dessiné un point fermé, levé en l'air, symbole du soutien qu'ils apportent aux femmes iraniennes, explique Soma.
Il faut savoir qu'en Iran, la répression contre les femmes, c'est super systématique. On ne peut pas être silencieuse à cette situation-là en Europe, en exil, voilà. On essaie de vraiment être la porte-parole et aussi la voix des gens qui sont dans la rue.
Dans la foule, Marie tient une pancarte. Elle a fui l'Iran pour rejoindre la France il y a 4 ans. C'est une évidence pour elle de soutenir ses compatriotes.
43 ans qu'on est en prison en Iran. Mais moi, je suis là. Je suis tranquille ici, que je suis libre. La seule chose que je peux faire, c'est ça. Venir ici, je voulais qu'ils savent que mon cœur est avec eux.
Et c'est loin d'être la seule à manifester. Cet après-midi, près de 250 personnes sont réunies ici à Châtelet. Parmi elles, Zahra. Cette féministe est indignée par la situation en Iran.
C'est pour soutenir les femmes iraniennes. personnes qui manifestent pour leurs droits, pour que les femmes décident pour elles. Personne n'a le droit de contrôler notre corps, de nous dire comment vous allez vous habiller ou autre. Ce qui se passe en Iran me touche, je me sens concernée, c'est pour ça que je suis là.
Et demain, une nouvelle manifestation en soutien aux femmes iraniennes est prévue. Elle aura lieu à 16h sur la place du Trocadéro à Paris.
Depuis le début du mouvement de protestation en Iran, 739 personnes, dont 60 femmes, ont été arrêtées dans le pays.
Allez, on passe au sport. Le sport et le foot, l'équipe de France est arrivée à Copenhague où elle jouera demain son dernier match de préparation avant la Coupe du Monde.
Un match que vous pourrez suivre en direct intégral sur Europe 1, le tout dans un climat très perturbé par les affaires judiciaires et les polémiques autour du monde du football. Dernière en date, l'échange de communiqués aujourd'hui entre la FFF et l'ONG Amnesty International sur la question des droits de l'homme. Et du droit de l'homme au Qatar. Jean-François Pérez, vous êtes au Danemark. Le sélectionneur Didier Deschamps assure rester serein malgré les circonstances.
Oui, le patron des Bleus a envoyé un message clair au terme d'une conférence de presse où on aura autant parlé de foot que de ses à côté. Deschamps succédé à Raphaël Varane sur l'estrade. Le défenseur et probable capitaine demain a évoqué les droits de l'homme au Qatar. Un sujet grave, sensible et important, assure-t-il. Varane portera comme son homologue danois un brassard anti-discrimination. Il y a aussi bien sûr l'affaire Pogba qui rôde, le dossier sur les éventuels scandales ou dérapages sexuels à la fédération. Pas facile de se concentrer sur le football. Raison pour laquelle Didier Deschamps, répondant à Europe 1, veut absolument garder son calme à moins de 2 mois de la Coupe du Monde, soupire en prime.
Je vous le dis sincèrement, il n'y a rien ni personne qui pourra perturber ma tranquillité et ma sérénité. Ça fait un petit moment que je suis là, pas dire qu'il y ait toujours eu des fleuves tranquilles pour X raisons. Je suis focalisé sur l'interne et gérer le moment présent avec les objectifs là à court terme avant de se projeter sur ce qui nous attend.
Et avant le mondial, il y a ce match face au Danemark, défaite quasi interdite pour ne pas tomber en deuxième division de la Ligue des Nations. L'équipe de France a retrouvé le sourire jeudi face à l'Autriche malgré l'avalanche de blessures. Il s'agit maintenant de le garder jusqu'au bout, au moins sur le terrain.
Voilà, et en attendant, les Bleus ont rendez-vous face au Danemark demain soir. Coup d'envoi à 20h45.
Ouais, tu fous à foot, pardon, à suivre sur Europe 1. Lionel Rousseau, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
On vous retrouve pour Europe 1 Sport, 20h-23h30, le menu.
Avec demain effectivement en intégralité la rencontre face au Danemark, on en parlera beaucoup ce soir, notamment en se demandant combien de joueurs et quels sont les joueurs, qui sont les joueurs qui ont marqué le plus de points lors du match contre l'Autriche et sans doute contre le Danemark, dans la vue de la Coupe du Monde, puisque Didier Deschamps n'a pas encore pris sa décision, notamment le cas Giroud. Beaucoup de joueurs disent du bien de lui, Raphaël Varane, le capitaine, cet après-midi. On espère donc, les Bleus espèrent que Giroud sera avec cette équipe de France au Mondial. Et puis on évoquera aussi, ce sera une tournée mondiale géante. Nous serons partout en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Belgique et même en Âme Sud pour évoquer les matchs internationaux partout dans le monde. C'est la tournée mondiale géante, c'est la tournée du patron.
Et ben voilà, et c'est vous le patron. À tout à l'heure. Merci Lionel Rousseau et merci à vous Guillaume Dominguez, le ciel.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Valérie Darmon, aujourd'hui c'était Mossad. Est-ce que ça se calme demain?
Absolument, le temps s'améliore près de la Méditerranée. En revanche, il reste instable du Grand Est à l'Auvergne, à Rhône-Alpes, au Poitou, jusqu'aux Charentes et aussi sur le Piémont pyrénéen. Sur les autres régions, vous aurez un ciel plus variable qu'aujourd'hui, passagèrement menaçant, avec un risque d'ondées assez limité sous des températures à peu près de saison. En nette hausse le matin, comme ce samedi matin, parce que ce week-end les nuits sont plus douces à cause de la couverture nuageuse, avec donc 9 à 16 du nord au sud. Et puis l'après-midi, des maximales en baisse qui vont évoluer entre 17 et 22 degrés en moyenne, sauf sous les nuages, les pluies et les orages, où elles pourraient être encore plus basses.
Merci Valérie Darmon. Dans un instant, Simon Liberati pour son livre Performance. À tout de suite.